Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Psaume 133. Cantique des montées de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, et comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le passage suivant, en Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Le passage suivant dans la première épître de Jean, au premier chapitre, les versets 1 à 7. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le passage suivant en Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Puis, encore un passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, les versets 1 à 7. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. »
Si le corps n'était pas coordonné par un système nerveux, il ne pourrait ni marcher, ni manger, ni penser. En fait, il ne pourrait pas vivre. Eh bien, notre compréhension a également besoin d'un système de commandes pour saisir ce que Dieu veut nous apprendre, pour nous faire vivre sa parole, la Bible. Ce pilote s'appelle, vous le savez bien, le Saint-Esprit, et nous comptons sur lui encore aujourd'hui pour comprendre sa parole. Il est dit dans Ecclésiaste 7:14, « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, réfléchis. » Eh bien, c'est ce que nous faisons dans cette série intitulée « Réflexion en ce temps de coronavirus ». Le but dans cette série, c'est d'aller au-delà des apparences, de chercher à voir ce que cette situation politico-sanitaire soulève comme question, comme difficulté, afin de réfléchir aux fondements sur lesquels nous appuyons notre foi dans cette situation. Alors, nous pouvons observer que la peur, la crainte, est un sujet présent, soit utilisé, soit stigmatisé, dans le temps que nous vivons. Nous avons donc réfléchi à la question « Que devons-nous craindre ?» lors de la première prédication de cette série. Nous avons parlé de la seule crainte légitime, des sources des craintes illégitimes et des promesses anti-craintes. Les injonctions des autorités civiles nous poussent à réfléchir à la place de l'obéissance. Et nous avons réfléchi à la question « À qui devons-nous obéir ?» Nous avons parlé de la structure de l'autorité biblique, que notre motivation doit toujours être l'obéissance, même si c'est parfois une autorité supérieure, et nous avons vu que Jésus-Christ lui-même a toujours obéi. Troisièmement, la demande de faire des choix est exacerbée dans la situation actuelle. Il faut faire des choix, des choix. Et nous sommes poussés à réfléchir à quelle est notre direction. Afin de prendre la bonne direction, nous avons parlé de notre identité, de notre référence, de nos valeurs et de nos priorités. En fait, quatre choses qui devraient consciemment être à la base de nos choix et de l'accueil du choix de nos frères et sœurs. Cette notion d'identité, référence, valeur et priorité. Nous avons donc déjà vu la crainte, l'obéissance et la base de nos choix. Bien d'autres sujets émergent évidemment. Et l'un d'entre eux me semble particulièrement important, c'est celui de l'unité dans la diversité. l'unité dans la diversité. Voilà pourquoi nous allons répondre à la question aujourd'hui, pourquoi rester unis dans l'Église ? Pourquoi rester unis dans l'Église ? Dieu construit son Église en y ajoutant des personnes de toutes couches sociales, d'arrière-plan très différents, avec des goûts, des préférences différentes, avec des manières de vivre différentes. Et pourtant, unis en Christ. Une unité dans la diversité. Comment cela est-il possible ? Eh bien, la situation actuelle nous pousse à constater que nous avons besoin de grandir dans cette unité et de voir la beauté de cette unité vécue dans le cadre de l'Église. Alors, c'est le sujet qu'on va aborder ce matin en réfléchissant à trois questions. La première, c'est quel est le fondement de notre unité ? Quel est le fondement de notre unité ? Deuxièmement, comment vivre les différences dans l'unité ? Comment vivre les différences dans l'unité ? Et troisièmement, quelles sont les conséquences d'être unis ? Quelles sont les conséquences d'être unis ? Voilà le cheminement que nous allons prendre ce matin. Donc premièrement, quel est le fondement de notre unité ? Eh bien, un des premiers principes bibliques à avoir en tête lorsque nous abordons un sujet tel que celui-ci, c'est de nous souvenir que tout ce qui est bon vient de Dieu. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Et l'unité entre croyants, cette belle harmonie lorsqu'elle est vécue, ce lien, cette complicité, cet attachement les uns aux autres, nous vient de Dieu. Nous vient de Dieu. C'est l'œuvre qu'il a accomplie en nous, avec lui, par lui, pour lui, qui nous unit et qui unit tous ceux qui lui appartiennent. Nous avons lu dans 1 Jean tout à l'heure qu'il était question de communion. La notion de communion, c'est l'unité aussi. Et je relis juste le dernier verset qu'on a lu tout à l'heure, 1 Jean 1, 7, qui dit « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché que nous sommes attachés, unis à lui. C'est parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous attache à lui que nous sommes unis les uns aux autres. Alors c'est comme si on venait tous poser la main, je ne sais pas moi, si je mets une Bible ici devant, on va tous poser la main sur la Bible ici, vous venez tous la poser, eh bien on est beaucoup plus proches. En fait, on est unis en la posant sur cette même Bible. Galates nous dit que le salut nous unit tellement qu'en Christ, nous ne voyons même plus la différence les uns des autres dans la communion. Galates 3, 26 nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. » Éphésiens 1 à 3 nous montre particulièrement l'unité basée sur l'œuvre du salut dont le chrétien est bénéficiaire, en lui. Pour ceux qui sont venus aux études, et je vous encourage à réfléchir, cet épître aux Éphésiens, c'est une expression qui revient plusieurs fois dans Éphésiens, en lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En fait, chaque croyant est uni par l'élection. En lui, nous avons la rédemption, donc la libération de l'esclavage. Chaque croyant est uni par la rédemption. En lui, nous avons été mis à part pour célébrer sa gloire. Chaque croyant est uni dans notre mission. En lui, nous avons cru et nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Chaque croyant est uni par notre appartenance. Ou encore Éphésiens 2, 21 et 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Notre unité ne vient pas de nous, mais du fait que tous les enfants de Dieu sont unis à Jésus-Christ. Nous sommes nés dans la famille spirituelle, comme nous naissons dans une famille physique. Quoi que l'on fasse ou que l'on veuille, nous avons des traits caractéristiques de cette famille, car nous avons le même ADN reçu de notre papa et de notre maman physiquement, et de Jésus-Christ spirituellement. Et cette unité ne peut pas être enlevée, même si vous placez deux frères et sœurs à des milliers de kilomètres avant la naissance du deuxième, qu'ils ne se connaissent pas, ils restent des frères et sœurs. S'ils vivent sous le même toit mais s'ignorent, ne savent pas ce que l'autre fait ou même se font du mal, cela ne change pas, ils sont unis par le sang. Dans l'Église, les véritables croyants sont véritablement unis par le sang de Christ également. Paul, qui a pris le temps de montrer la gloire de l'Église d'un point de vue spirituel dans Éphésiens 1 à 3, encourage ensuite dans la deuxième partie d'Éphésiens de vivre clairement cette vie pratiquement. En fait, si Dieu a créé l'unité, il nous engage aussi à la conserver, à la développer, à l'aimer et à la protéger. Ainsi, l'unité est créée par Dieu, il nous encourage à la conserver, à la développer, à l'aimer et à la protéger. Donc si l'unité est donnée ou reçue pour nous, l'unité est aussi à travailler. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4. Nous avons lu les versets, la première partie de ce chapitre. Et les trois premiers versets, si on les reprend, nous disent ceci. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Oui, mais alors, pourquoi travailler à quelque chose que l'on a déjà, vous allez me dire? On l'a déjà, donc pourquoi y travailler? Eh bien, parce que c'est comme cela que Dieu agit avec nous et pour nous. Et l'unité n'est pas la seule chose qui fonctionne ainsi. Je vais vous en donner deux exemples que l'on trouve dans la parole de Dieu. La sainteté. La sainteté, en fait, nous sommes saints par Christ. Car Dieu voit la vie de Christ lorsqu'il nous regarde. Et nous sommes appelés à devenir saints dans notre pèlerinage terrestre. En fait, la sainteté reçue de Christ s'appelle la sainteté objective, et la sainteté dans laquelle nous progressons est la sainteté subjective. Mais c'est la même notion. On l'a reçue et on y travaille. Deuxième sujet, le salut. Le salut est pleinement et totalement accompli. Jean 19, 30, tétélestai, on connaît bien ce mot. Totalement accompli par Jésus-Christ pour que nous échappions au juste jugement éternel. Et nous sommes appelés à travailler à notre salut, Philippiens 2, 12. À le mettre en action en comprenant que nous sommes sauvés et que nous pouvons partager cette bonne nouvelle. On pourrait dire, et ça c'est un élément que vous avez déjà entendu, mais que j'aime souligner parce qu'il est très très important, l'impératif dans la Bible s'appuie toujours sur un indicatif. L'impératif dans la Bible, ce qu'on est appelé à faire, s'appuie toujours sur un indicatif, sur ce que Dieu a fait. L'unité en Christ est un indicatif. La mise en pratique et la progression dans l'unité de l'Église est un impératif qui s'appuie sur l'unité en Christ. Il y a un effort pour conserver et développer l'unité de l'Église. Et quelqu'un posait cette question, à quel effort, quel sacrifice même sommes-nous prêts à consentir pour que notre église locale jouisse de l'unité? Combien de force, d'énergie je suis prêt à mettre pour que l'église locale soit unie? Et cette même personne disait, en parlant de la première partie de c'est Dominique Angers qui part de Éphésiens 1 à 3, il dit « Dieu donne les ailes ». Et en parlant de la partie 4 à 16, et il nous invite à prendre notre envol. Donc il nous donne cette unité et nous invite à la vivre. Comment y travailler? Eh bien, un premier élément que j'aimerais nous donner, c'est vivre simplement déjà ce qui est écrit dans Éphésiens 4, 2, que nous avons lu tout à l'heure. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Quatre mots. Simple en fait. Quatre mots. Humilité, douceur, patience et amour. D'ailleurs, c'est intéressant parce que peut-être que vous avez fait le lien avec Colossiens 3.12 qu'on était invité à méditer hein, il y a deux semaines, si je ne me trompe pas, qui en fait revient sur les mêmes notions et en plus en soulignant les indicatifs sur lesquels on s'appuie. Hein, c'était Colossiens 3.12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, ça c'est les indicatifs, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Éphésiens 4.2, vous vous souvenez les quatre mots ? Humilité, douceur, patience, amour. Si ces quatre mots accompagnent toutes nos relations dans l'Église pour tous les sujets que nous pouvons aborder, même et particulièrement lorsque ce sont des sujets peut-être plus délicats ou que nous avons des avis différents, c'est là que nous cherchons à conserver réellement l'unité, en vivant l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Pour travailler notre unité, nous sommes aussi appelés à simplement étudier la parole de vérité ensemble, régulièrement. Et là, c'est vrai que les cultes ne sont pas suffisants pour développer cette unité. Que diriez-vous de ne voir votre épouse que 2 heures par semaine et vraiment développer une complicité, une unité dans la pensée, une communion autour de la parole de Dieu ? Pas facile. En fait, lors des études bibliques, lors des rencontres de dames, lors enfin, du groupe de jeûne, lors des rencontres de prière, il y a différentes possibilités, eh bien, nous cherchons à réfléchir à différents éléments. Dans l'étude biblique actuellement, nous étudions Éphésiens, qui justement parle de l'unité, qui souligne bien des sujets que je ne peux pas aborder maintenant, faute de temps, comme par exemple les 7 piliers de l'unité de Éphésiens 4, 4 à 6. Alors, ceux qui étaient présents lorsqu'on l'a vu, ben, vous l'avez en tête. Pour les autres, ben, n'hésitez pas à prendre contact, à chercher aussi à le connaître. Et ainsi, nous serons toujours plus unis. Quelle beauté pour ceux qui vivent ce temps d'étude ensemble. Et pour les autres, si c'est possible, quand c'est possible, ben, j'aimerais nous dire, mais réveillons-nous. Venons aux rencontres des semaines où nous parlons de la parole de Dieu, où nous partageons ce que nous vivons, où nous nous réjouissons de l'œuvre de Dieu, où nous prions ensemble. On peut venir aussi le dimanche matin du dernier dimanche du mois. Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons régulièrement que à 2 personnes, alors que bien des personnes n'ont pas de jeunes enfants ? Lorsque la chaudière de l'Église se refroidit, l'Église se désunit. Et la chaudière est alimentée par la prière communautaire. Oui, mais nous sommes tellement différents. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Nous n'avons pas les mêmes avis sur bien des domaines. Eh bien justement, Dieu a voulu la différence pour nous faire progresser dans l'unité. Abordons donc notre deuxième point du jour. Comment vivre les différences dans l'unité ? J'aime bien cette citation. J'ai dû la lire plusieurs fois, donc peut-être pour vous aussi, il faudra la lire une ou deux fois pour qu'on la comprenne bien, qui dit « Je vois des chrétiens compliqués dans mon église et certains jours dans mon miroir. » Je vois des chrétiens compliqués dans mon église et certains jours dans mon miroir. Alors c'est une vue honnête de la situation, mais elle pourrait être vue un peu plus positivement. Donc moi je préférerais dire, je vois des richesses dans mon église que j'arrive pas à saisir, et certains jours dans mon miroir. Dieu a voulu la diversité. Il n'a pas créé les fleurs toutes de la même couleur. Il n'a pas fait tous les animaux de la même forme. Il n'a pas fait l'homme et la femme identiques. C'est de la diversité que surgit la vie. C'est dans la complémentarité que se construisent les plus grands projets. Car chacun met ses capacités différentes en œuvre ensemble. Pour construire un grand pont, par exemple, une personne n'est pas capable de faire tous les types de travaux pour faire un grand pont. Et même si quelqu'un avait vraiment plein de capacités exceptionnelles, il ne pourrait pas le construire seul quand même. L'illustration du corps humain que nous avons dans la Bible, hein, pour parler de l'Église, dans Romains 12 et 1 Corinthiens 12, là c'est chaque fois 12, ça nous permet de nous en souvenir. Donc l'illustration du corps humain pour parler de l'Église, dans Romains 12 et 1 Corinthiens 12, souligne bien cette pensée de la diversité qui est donnée pour contribuer à l'unité de l'ensemble. Il n'y a qu'un œil, ça ne marche pas. C'est le cas de le dire, ça ne marche pas. Chacun des membres de nos corps contribue à notre unité du corps, comme chaque personne dans l'Église, avec ses dons et ses capacités, contribue à l'unité lorsqu'ils sont coordonnés. Bon, d'accord, on peut comprendre cela, mais comment le vivre alors ensemble dans l'Église ? Eh bien, en ayant deux éléments bien ancrés dans nos pensées, appuyés sur le fondement de l'unité en Christ. Fondement de l'unité en Christ, on l'a vu, c'est un élément tellement important. C'est un élément qu'on peut se rappeler, c'est beau l'unité que Christ nous donne. Et deux éléments que l'on peut prendre fondés sur cet élément d'unité de Christ, c'est la liberté chrétienne et les principes bibliques. La liberté chrétienne qui nous permettra d'avoir une vue tout à fait ouverte et capable de voir que d'autres peuvent faire différent et même que je peux faire différemment. Et les balises bibliques ou les principes bibliques qui me donnent des balises dans lesquelles, ce qui sont très larges, qui permettent de donner les limites de ce que nous allons vivre en étant unis. Alors la liberté chrétienne, concernant cette liberté, il faut d'abord se souvenir qu'il s'agit de la liberté en Christ acquise pour les croyants. Parce que souvent quand on dit liberté chrétienne, c'est tout faire. Voici ce que dit la Confession de foi de 1689. Cette liberté consiste en leur libération de la culpabilité du péché, de la condamnation de la colère de Dieu, de la sévérité et de la malédiction de la loi. En fait, la liberté chrétienne, ce n'est pas pratiquer le péché ou entretenir des passions coupables, mais c'est servir le Seigneur sans crainte en marchant dans la sainteté et la justice chaque jour de notre vie, étant délivré de la main de tous nos ennemis. Fin de citation de la Confession de foi. Donc, dans cette liberté, nous pouvons avoir des choix concernant nos préférences, nos façons d'agir, nos réactions dans tous les domaines. Mais nous serons en même temps capables de limiter notre liberté lorsque cela permettra à un frère plus faible de ne pas tomber ou de pouvoir progresser. En fait, le principe de la liberté chrétienne ne se passe pas sur le « j'ai le droit », mais « je fais ce qui édifie ». Le principe de la liberté chrétienne ne se base pas sur « j'ai le droit », mais « je fais ce qui édifie ». À la suite de 1 Corinthiens 10, 23, hein, qui dit ceci, « tout est permis ». Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. La liberté chrétienne, c'est une grande liberté d'agir avec humilité, douceur, patience et amour. Cela signifie aussi que la liberté chrétienne nous pousse à accepter d'autres façons de voir, de vivre et de gérer les situations. Ce qui nous permettra de rester unis, ce sont les principes bibliques qui sont les mêmes pour tous. La diversité, elle n'est pas la même pour tous. Par contre, les principes bibliques, et ça c'est le deuxième élément, je dis deux éléments qu'on doit avoir en tête, c'est la liberté chrétienne et les principes bibliques. Nous pouvons avoir des avis différents sur des sujets, mais nous serons toujours unis sur les fondements et les objectifs bibliques en lien avec le sujet. Ça c'est vraiment important. Nous pouvons avoir des avis différents sur des sujets, mais nous serons toujours unis sur les fondements et les objectifs bibliques en lien avec le sujet. Et si nous ne le sommes pas, c'est le moment de retrousser nos manches, d'ouvrir nos Bibles et ensemble de cheminer pour arriver à une unité. Au niveau relationnel, je ne peux que vous encourager à revenir sans cesse aux principes bibliques que nous avions vus avec l'artisan de paix. Nous sommes d'accord avec ces principes bibliques. La manière de le vivre, c'est très différente les uns des autres. Mais les principes bibliques, nous sommes unis. De façon générale aussi, et d'ailleurs, en préparant cette prédication, j'ai été marqué par une compréhension nouvelle pour moi de Éphésiens 4, 5, où il est dit « disant la vérité avec amour ». Dire la vérité avec amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'avais l'idée commune que cela voulait dire « dire quelque chose de vrai en faisant attention de ne pas blesser ». Je continue à penser que c'est une bonne chose. Mais « dire la vérité avec amour » veut plutôt dire ici rappeler ce que l'Évangile, la vérité, a changé et peut encore changer. Autrement dit, c'est prendre une vérité relative au salut et l'appliquer à la situation d'un frère ou d'une sœur avec une attitude d'amour fraternel. C'est ça, dire la vérité avec amour. C'est pas dire ma vérité en faisant attention de ne pas froisser l'autre. C'est d'amener la vérité de Jésus-Christ, de l'Évangile, en aimant l'autre. Alors là, je viens de donner un principe biblique pour les relations que nous allons vivre de façon différente. on ne va pas le faire tous de la même manière, c'est clair. Mais la base est la même pour tous, nous sommes unis. Voici quelques exemples de sujets où nous pouvons avoir des différences. Alors là, les jeunes vont se souvenir de notre discussion de vendredi soir. Par exemple, l'habillement. Et oui, certains aiment ce qui est coloré, d'autres ce qui est moins voyant. Certains aiment les habits amples, d'autres des habits pratiques. Certains s'habillent selon le lieu, selon la couleur de leurs yeux, enfin, etc. D'autres selon leur humeur. Certains mettent de l'importance dans le fait de pouvoir facilement laver. D'autres sur l'origine, sur le type de matière, la manière de fabriquer, les traces de déchets que cela peut laisser, enfin, etc., etc. Enfin, j'espère que vous comprenez qu'il y a des différences. Et tout cela fait partie de la liberté chrétienne. L'autre n'a pas besoin de faire exactement comme moi, ou moi de faire exactement comme l'autre. Il y a par contre des principes bibliques clairs pour l'habillement, avec lesquels nous sommes unis en Église. Ou bien alors, c'est le moment de prendre du temps pour se mettre d'accord. Je vais vous donner deux principes bibliques. Le premier, ça vient du tout début. C'est Dieu qui a créé les habits suite à la chute, dans Genèse 3:21. C'est donc un moyen de protéger l'homme des conséquences du péché. Voilà la raison des habits. Ce n'est pas premièrement pour faire joli, pour donner de la chaleur, même si c'est aussi le cas. C'est premièrement pour protéger l'homme des conséquences du péché. Ça, c'est un principe de base. Et là, j'espère, nous sommes tous d'accord. Sinon, il faut qu'on prenne un peu de temps pour étudier la parole. Deuxième principe, le principe biblique de la décence, de la pudeur et de la modestie qui est clairement enseigné dans 1 Timothée 2:9. Ça, c'est des éléments qui sont clairs. Mais ça donne une variété de la manière de vivre qui est juste énorme. Donc ces deux principes bibliques nous donnent une grande liberté dans la manière différente de gérer notre garde-robe, mais nous aident aussi à rester unis, parce que les principes bibliques sont suivis dans toutes les différentes façons de le vivre. Un deuxième exemple, la nourriture. Certains aiment les pâtisseries avec modération. D'autres n'en mangent pas ou ne mangent pas de sucre transformé. Certains sont attentifs à manger beaucoup de légumes, d'autres des protéines. Certains vérifient le pH produit par la nourriture, d'autres sont attentifs à calmer leur faim ou encore à jeûner régulièrement. D'autres encore sont heureux de goûter toutes les saveurs, alors que la réaction du corps de certains ne permet pas de manger de tout. À nouveau, je pourrais continuer toutes les différences en fait qui existent et qui font partie de la liberté chrétienne. Mais pour la nourriture, nous avons aussi des principes bibliques qui devraient nous unir, qui nous unissent. Trois principes. Le premier, la nourriture doit être prise avec reconnaissance envers celui qui prend soin de nous. Vous pouvez relire Matthieu 6, particulièrement les versets 31 et 32. La nourriture prise avec reconnaissance, ça vient de Dieu. Deuxièmement, la nourriture ne doit pas prendre la place de Dieu dans notre manière de vivre. Philippiens 3, 19, Paul va même jusqu'à dire que certains ont pour Dieu leur ventre. Et troisièmement, les excès de table ou de boisson ne font pas partie de la liberté chrétienne. Romains 13, 13. En fait, c'est plutôt des esclavages, les excès de table et de boisson. Voilà trois principes sur lesquels, je l'espère, nous sommes d'accord, et qui donne une grande liberté dans la manière de le vivre. Nous pourrions continuer avec d'autres sujets. Je ne vais pas le faire, mais on pourrait parler d'éducation, d'argent, de comment on nettoie, des loisirs, de la santé, et de plein d'autres sujets. Avec les jeunes, on en a fait une liste de 34 sujets, je crois, si je me souviens bien. Donc, c'est pas mal. Nous devons donc garder en mémoire trois choses. Dieu veut l'unité dans la diversité, pour notre bien et sa gloire. C'est la première chose. Dieu veut l'unité dans la diversité pour notre bien et sa gloire. Deuxièmement, Dieu a donné la liberté pour notre bien et pour sa gloire. Dieu a donné la liberté pour notre bien et pour sa gloire. Et troisièmement, Dieu a mis des balises, ces principes bibliques, Dieu a mis des balises pour notre bien et pour sa gloire. Ouais, mais alors, on est dans une série sur le coronavirus. Qu'en est-il? Vous me permettrez de ne pas faire la liste de toutes les façons de gérer cette situation qui font partie de la liberté chrétienne. Mais j'aimerais vous donner simplement quelques principes bibliques. Le premier, c'est la crainte de Dieu et aucune autre crainte doit diriger notre façon de gérer cette situation. Vous pouvez réécouter la première prédication. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu est donc en cascade à toute autorité mise en place par lui quand ce qui est commandé permet de le glorifier. Vous pouvez revenir à la deuxième prédication. Troisièmement, le choix fait en lien avec notre identité, nos valeurs, nos références et nos priorités données par Dieu. Vous pouvez revenir à la troisième prédication. La recherche, quatrièmement, réelle de l'unité de l'Église locale, même au prix de sacrifices personnels à la suite de l'amour pour Christ et pour elle. Christ s'est sacrifié complètement pour elle. Donc on doit être prêt, même dans ce domaine-là, à se dire, je fais certains sacrifices pour l'unité. Et un sujet suivant, un cinquième principe que l'on verra une prochaine fois, c'est l'acceptation de la souffrance dans ce monde déchu et le désir de soulager les autres, même si cela nous coûte quelque chose. Voilà cinq principes bibliques qui, je l'espère, nous unissent. C'est vraiment important. La manifestation ensuite dans nos vies, elle peut différer. Et nous pouvons rester unis. Vivre la différence dans l'unité, c'est être capable de reconnaître ce qui nous unit en Christ et qui doit être le plus fort. C'est être capable de reconnaître ce qui nous unit en Christ et ce qui est et qui doit être le plus fort. Et c'est être capable de passer par-dessus ce qui est en lien avec des préférences ou des points de vue qui sont d'ailleurs une richesse pour nous faire progresser dans l'humilité, la patience, la douceur et l'amour. Donc vivre la différence dans l'unité, c'est être capable de reconnaître ce qui nous unit en Christ, qui doit être le fondement, qui est le plus fort, et c'est être capable de passer par-dessus ce qui est en lien avec des préférences ou des points de vue, qui sont une richesse d'ailleurs, pour nous faire progresser dans l'humilité, la patience, la douceur et l'amour. Et pour terminer, nous allons brièvement réfléchir aux conséquences d'être unis. Quelles sont les conséquences de l'unité? Je commence par un élément peut-être un peu plus négatif, mais qui fait partie, c'est que l'unité amène à des séparations. L'unité dans l'Église n'est pas l'inclusion de quiconque, mais de quiconque croit. L'unité de l'Église, comme nous l'avons vu au début, n'est pas quelque chose que nous créons. C'est une unité en Christ. Ça, c'est le fondement. Si on n'a pas ce fondement pour ce que je suis en train de vous parler, il y a un problème. On va mal le comprendre. Mais en fait, l'unité en Christ nous amène à nous séparer de ce que Christ se sépare. Tout ce que Christ éloigne de lui, étant uni en lui, nous allons aussi l'éloigner. En fait, il est par exemple impossible d'aimer Jésus-Christ, d'aimer Dieu et d'aimer le monde en même temps. C'est pas possible. Et c'est pas moi qui le dis. C'est 1 Jean 2, verset 15, qui dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est de le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » En fait, l'Église doit être unie pour combattre l'entrée du monde dans l'Église. Ça peut être par l'exclusion de personnes qui veulent faire aimer le monde de façon claire et répétée dans l'Église. Ou bien ça peut être par l'exhortation entre frères et sœurs, lorsque le monde détourne l'un ou l'autre dans un domaine de notre vie. En fait, nous devons être unis pour nous séparer du péché. Nous devons être unis pour nous séparer du péché, pour céder l'un et l'autre à se séparer du péché. Donc l'unité amène à cette séparation-là, en fait. Mais l'unité mène aussi à la protection. En fait, être unis nous protège. Là, je vous raconte une petite histoire. Sur une colline, dans la grande forêt équatoriale, vivaient 10 buffles. 10 buffles, hein. Ils étaient connus pour leur amour mutuel. Chaque jour, ils paissaient ensemble. Il y avait aussi un lion qui rôdait autour de cette colline à la recherche de sa proie. Il savait qu'il était capable de tuer les buffles un à un, mais il avait peur d'en attaquer un seul pendant qu'ils étaient ensemble, car leurs cornes puissantes lui inspiraient la terreur. Alors il pensa, si seulement un de ces buffles pourrait s'éloigner du troupeau, je pourrais le tuer et faire un bon festin. Ainsi, pendant plusieurs mois, il épia le troupeau. Il faisait les 100 pas dans la forêt en passant près d'eux, mais il ne put jamais surprendre un buffle isolé. Ils s'aimaient les uns les autres et allaient, venaient et paissaient ensemble. Un matin, un des buffles s'éveilla plus tôt que les autres. Liberté chrétienne. Il se mit à paître. Il fit ainsi plusieurs jours de suite. Finalement, un de ses grands frères l'accusa en disant « Pourquoi te lèves-tu plus tôt ?» C'est pour paître l'herbe plus tendre et la plus savoureuse, n'est-ce pas? Mais les autres frères, vous vous levez si tard, fut sa réponse. Que vous importe si je me lève tôt, l'herbe est pareille. Mais les autres buffles maintinrent leur point de vue en affirmant que la nourriture de choix était volée par leurs frères. Alors ils décidèrent de se séparer, chacun des buffles choisissant pour son pâturage l'une des collines environnantes. Bientôt les 10 buffles se répandirent sur les 10 collines. Quand le lion vit cela, il fut très satisfait. « C'est ce que j'attendais depuis longtemps, » dit-il. Il se mit en route et découvrit un des buffles isolés. Il le tua et fit un festin royal. Puis il tua les 9 autres les uns après les autres jusqu'à ce que le troupeau eût disparu. L'unité mène à la protection. L'unité est aussi une clé pour témoigner. Car ainsi nous pouvons vivre ce que Jésus nous a dit. Nous connaissons ce texte de Jean 13, 34 et 35, qui nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais comment s'aimer sans être unis? Et comment être unis sans passer du temps ensemble? L'unité est une clé pour le témoignage. L'unité, quatrièmement, permet des actions coordonnées et efficaces. Quand nous sommes unis, nous pouvons nous concentrer nos efforts ensemble dans des actions utiles pour le témoignage, pour la proclamation de la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas unis, nous sommes en train de mettre de l'énergie dans notre désunion. En étant unis, nous pouvons partager l'évangile, mettre toute l'énergie dans le partage de l'évangile. Le temps mis pour conserver l'unité en vivant régulièrement des moments ensemble, en église, en dehors des cultes, et en investissement, est un investissement très précieux pour les actions que nous sommes appelés à vivre dans notre mission de proclamer la parole. En fait, on ne se rend pas compte, on se dit, mais est-ce que ça vaut la peine d'être ensemble, simplement de manger ensemble, ou de vivre des temps de prière ensemble? Quelque part, je ne ressens pas une grande chose dans mon cœur à ce moment-là. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que Dieu tisse ses relations et nous permet ensuite d'être paisibles les uns avec les autres lorsque nous devons prendre des décisions ensemble, lorsque nous devons faire face aussi peut-être à des situations plus difficiles. Donc le temps mis pour conserver l'unité, en vivant régulièrement des moments ensemble en église, en dehors des cultes, est un investissement précieux pour les actions que nous sommes appelés à vivre dans notre mission de proclamer l'Évangile. En conclusion, j'aimerais dire que l'unité est importante. Elle glorifie Dieu qui est un et multiple. Elle est bonne. L'unité que nous vivons en Église reflète, bien qu'imparfaitement, l'Église céleste. Nous sommes une ambassade d'un royaume plus grand et nous vivons déjà un peu comme dans ce royaume. C'est un peu ça aussi l'idée des ambassades, de vivre comme dans ce royaume, déjà ici. Et ce temps de corona est une épreuve pour l'unité de l'Église. Et le sera encore plus si nous étions accusés, comme l'a été par exemple la PO à Mulhouse au début de la pandémie. Sommes-nous prêts à nous investir pour vivre cette unité? Ou est-ce que nous allons nous cloître encore plus chacun chez soi au risque de la perdre? Non. L'unité en Christ est extraordinaire, mes chers frères et sœurs. Elle est extraordinaire. Une harmonie si douce, encourageante. Des liens de confiance qui permettent l'épanouissement, la complicité qui enlève les mauvais soupçons, l'attachement les uns aux autres est rassurant et nous permet bien souvent de passer des épreuves avec plus de paix et de courage. L'unité, c'est quelque chose de très bon. Choisissons de nous efforcer à conserver l'unité, à y progresser, en remerciant Dieu pour l'unité indestructible en Jésus-Christ, qui est notre fondement. Il dit dans le psaume 133, « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu es un et multiple, et l'unité en toi est parfaite. Elle est bonne. Il n'y a rien qui vient interférer cette unité. Cette unité entre le Père et le Fils, c'est l'image de ce que Jésus veut que nous ayons les uns envers les autres. Merci pour cette merveilleuse prière de Jean 17 que nous pourrons encore méditer. Merci pour ta parole qui nous encourage à conserver cette unité que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, nous aimerions vraiment te remercier et te louer parce que tu ne nous demandes pas de créer cette unité. Nous n'en serions pas capables. Parce que nous chercherions à mettre ce que nous pensons être juste au centre. Non, Seigneur, tu nous donnes cette grâce d'avoir un centre commun qui est Jésus-Christ, qui est l'Évangile, qui est ta parole. C'est un bienfait. Seigneur, donne-nous cette grâce d'aimer le centre de notre unité, afin de nous aimer les uns les autres toujours plus, liés à notre amour qui grandit pour toi, pour Jésus-Christ et pour ton Évangile. J'aimerais te prier, Seigneur, de nous donner cette grâce d'être capable aussi de parler ensemble des balises, des principes bibliques, d'être capable aussi de voir que nous sommes différents et que c'est une richesse. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous donner cette grâce dans ces temps sanitaires, politico-sanitaires étonnants, de justement être unis, non pas forcément dans une façon de combattre cela, mais en Jésus-Christ. Parce que nous savons que ce n'est pas la façon de vivre notre santé qui est le centre de notre unité. Et j'aimerais te prier, Seigneur, de nous aider à bien le saisir, afin d'être de réels témoins et que les gens puissent dire « Mais ils s'aiment. Ils n'ont pas forcément même tous le même avis. Et pourtant, ils s'aiment. Ils sont capables de prendre du temps les uns pour les autres. Ils sont capables de s'intéresser. Ils cherchent vraiment le bien les uns des autres. Oh Seigneur, que nous puissions le vivre à ta gloire, en montrant clairement que c'est à cause de toi, c'est grâce à toi, c'est pour toi que nous vivons cela. Et que cela puisse être connu loin à la ronde, afin que ta gloire soit manifestée. Oh, permets, Seigneur, que l'unité en Christ se manifeste dans nos vies. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.